On raconte qu'il y avait un évêque qui avait l'habitude d'amener ses candidats au sacerdoce à la veille de leur ordination, de les amener au cimetière la nuit. Et quand ils arrivaient là, ils se mettaient en prière. Plusieurs années plus tard, on posera la question à l'évêque: pourquoi est-ce que vous avez cette habitude-là d'amener de jeunes prêtres avant leur ordination, disons, de les amener, les jeunes candidats, au cimetière la nuit? Il dit, moi, je voulais leur donner une formation sur le tas. Je voulais qu'ils comprennent qu'en devenant prêtres, dans leur prière et dans leur action, ils ne doivent avoir peur ni de la mort, ni de la vie, ni des morts, ni des vivants, des mauvais esprits, ni des fantômes, qu'ils devaient être sûrs de la présence de Dieu et mener leur sacerdoce avec assurance. Dans l'évangile d'aujourd'hui, il me semble que le Seigneur fait plus ou moins la même chose, dans ce sens-ci. Nous sommes au début du ministère public de Jésus, dans l'évangile de Jean. Le Seigneur a déjà appelé ses premiers disciples. Il est déjà entouré de ses premiers disciples. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, pour leur donner aussi une formation sur le tas. Donc, à partir de l'expérience, il prend ses disciples et il les amène à Cana, dans un contexte de mariage. Pourquoi? Parce qu'il voulait que ses disciples apprennent à reconnaître la réalité humaine, que l'être humain a été créé par Dieu pour l'accueillir. S'il faut que ses disciples évangélisent un jour, il faudrait qu'ils se rendent compte que c'est la réalité humaine qu'il faudrait évangéliser. Le mariage, au temps de Jésus, dans sa culture, ce mariage-là prenait 7 jours de célébration. Et le mariage réunissait les familles qui étaient éparpillées partout, et c'était le moment du rendez-vous où tout le monde se retrouvait pour se revoir, pour se reparler, pour des réjouissances, pour la fête familiale. Et les visages avoisinants venaient participer à l'événement social. C'était un moment important où on vivait l'humanité, où on vivait la fraternité, où on vivait le social. Alors donc, Jésus est en train de dire à ses disciples, c'est dans le social qu'il faut évangéliser. C'est dans ce monde-ci qu'il faut évangéliser. Il ne faut pas fuir le monde pour l'évangélisation. Le Seigneur nous envoie, comme son Père l'a envoyé dans le monde, le Seigneur nous envoie aussi dans le monde. Vous vous rappelez, l'évangile de Jean nous dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour son salut. Voyez-vous, donc ça c'est le premier sens en fait du mariage, un sens littéral qu'on peut dire, le premier sens qu'on peut lui donner. Maintenant, il y a quand même un sens figuré qu'on peut donner au mariage dont nous venons d'entendre la proclamation. C'est qu'avec le Seigneur Jésus, eh bien, il rappelle les épousailles entre le peuple d'Israël et Dieu. Le mariage dans la Bible, toute la Bible évoque les relations entre le peuple de Dieu et Dieu lui-même. Alors, Jésus, quand vous regardez certaines de ses paraboles, il se présente comme l'époux. C'est celui, en fait, qui vient établir le lien qui doit exister entre l'humanité, la nouvelle humanité, et Dieu. En fait, c'est la célébration du nouveau temps, des temps nouveaux. Pourquoi? Parce qu'il prend les jarres, les cuves remplies d'eau, eh bien, qui étaient vides. Le cuve qui représente l'ancien judaïsme, qui représente l'ancienne alliance, voilà qui va les remplir de l'eau fraîche. Pour dire, c'est la nouvelle alliance, c'est le nouveau temps, c'est le temps de réjouissance, c'est le temps messianique qui commence avec lui. Voilà l'explication qu'il donne à ses disciples dès le premier jour pour qu'ils puissent reconnaître c'est qui leur maître. C'est le Fils de Dieu, c'est le Messie de Dieu. Mes amis, comme le Seigneur Jésus à inviter ses disciples à ne pas fuir le monde, à accueillir la réalité humaine, à redécouvrir notre sens d'humanité, à demeurer dans notre humanité pour évangéliser, vous et moi, nous sommes appelés aujourd'hui à la même mission. Il ne faudra pas fuir ce monde-ci. notre monde où le prix du pétrole est en train de fluctuer, où ça crée des inquiétudes. C'est dans ce monde-ci que nous sommes appelés de vivre, pas à fuir, mais à évangéliser. Ce monde-ci où dans notre nation, nous sommes en train de perdre, le dollar est en train de se déprécier. Et ça amène quelques inquiétudes, quelques spéculations. C'est ce monde-ci que nous sommes en train d'évangéliser. Il ne faut pas fuir ce monde-ci, c'est notre monde à nous. C'est où il faut rester debout et accueillir ce monde avec notre lumière chrétienne, avec notre foi chrétienne. C'est ce monde-ci, notre Canada, qui a reçu d'un océan à l'autre, qui a reçu des réfugiés. Et on attend 25 000, comme on nous a dit, fin février. Alors, c'est ce Canada-ci où nous vivons, où nous sommes appelés à nous mettre debout et à prendre notre étendard de foi, de charité et d'espérance. C'est ce monde-ci qui a parfois des troubles. On entend dire des tueries à gauche, à droite. Est-ce que le Seigneur nous demande de fuir ce monde-ci? Non. Il nous demande de plonger dans la réalité humaine avec notre souci d'évangélisation, avec notre foi et avec notre sens de charité pour la réconciliation de ce monde-ci. Nous sommes des citoyens du monde appelés à évangéliser l'humanité. Même quand il y a de la répugnance dans le monde, comme par exemple quand nous apprenons avec dégoût que par exemple dans la nuit de la Saint-Sylvestre à Cologne, la police de la ville de Cologne a reçu plus de 500 plaintes de femmes, agressions sexuelles dans la même nuit. Même c'est la répugnance, nous ne fuyons pas ce monde, c'est ce monde qu'il faut évangéliser. C'est ce monde qu'il faut convertir. C'est là où le Seigneur nous envoie aujourd'hui, dans ce monde-ci. Quand on regarde comment le Seigneur a procédé, alors on lui amène, il s'approche devant les serviteurs, devant les 6 cuves, les 6 jars. Alors on lui demande, sa mère lui avait dit qu'il manquait du vin, alors il demande aux serviteurs de le remplir. Regardez, le texte dit qu'une cuve pouvait contenir plus ou moins 100 litres d'eau. Alors le Seigneur va convertir l'eau en vin, comme dit le texte. Mais regardez, c'est 6 cuves, donc 600 litres de vin pour un mariage. Le Seigneur ne va pas par le dos de la cuillère, comme on dit ici. Alors pour dire que, en fait, quand Dieu donne, il n'est pas parcimonieux, notre Dieu. Quand Dieu donne, eh bien, il te comble de sa grâce. Il te comble de ses biens. Il te comble de son esprit. Il te remplit de sa vie. Voilà pourquoi nous parlons de l'amour infini de Dieu. Voilà pourquoi nous parlons de la vie éternelle. La vie que Dieu nous donne, ce n'est pas une petite vie. Tu termines sur la terre, puis c'est fini. Quand Dieu donne, il le donne vraiment, c'est en abondance. Voilà pourquoi nous parlons de la vie éternelle. Une vie qui n'a pas de fin. Pourquoi? Parce qu'elle vient de Dieu, c'est Dieu qui la donne. Quand Dieu te donne, quand il te pourvoit de ses grâces, c'est toujours à plénitude, à craquer. Voyez-vous. D'ailleurs, nous parlons aussi de la miséricorde infinie de Dieu. Regardez, nous avons mis l'image de la divine miséricorde. Comme vous le savez, cette année, nous sommes invités à approfondir le sens de la miséricorde de Dieu. Et même le texte qui est présenté là-bas, c'est le thème même de l'année de la miséricorde. Soyez miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, la miséricorde de Dieu est inépuisable, infinie. D'ailleurs, j'aime beaucoup une des réflexions du pape François. Il dit, la miséricorde de Dieu ne peut pas s'épuiser. Elle est toujours là. Mais par contre, nous les humains, nous avons peur de la miséricorde de Dieu. Nous hésitons pour y aller, pour aller puiser la miséricorde de Dieu. Avec nos peurs, avec nos craintes, on ne veut pas y aller. Et pourtant, Dieu offre d'une manière infinie sa miséricorde. N'importe qui peut aller puiser. N'importe quel péché peut être pardonné. N'importe quelle distraction, n'importe quelle erreur peut être reprise, peut être pardonnée. Et Dieu donne toujours la voie de recommencer. Donc, quand Dieu donne, c'est en abondance. Quand Dieu pardonne, c'est en abondance. Alors aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est aller vers lui. Mais nous allons aller vers lui avec l'attitude des serviteurs. Vous vous rendez compte? Le Seigneur dit aux serviteurs à qui Marie a parlé, faites tout ce qu'il vous dira. Il dit, remplissez les jarres d'eau. Les serviteurs sont partis prendre de l'eau et ils ont rempli les cuves d'eau. Prenez de l'eau et allez donner au maître des noces, au maître de la fête. Ben, allez donner de l'eau. Ils prennent de l'eau, ils vont apporter de l'eau au maître. Oui, mais c'est une obéissance parce que Marie leur a parlé, mais c'est leur collaboration à l'affaire, à ce que le miracle ait eu lieu. Donc c'est leur collaboration, leur ouverture qui a fait que le Seigneur a pu finaliser ce qu'il voulait faire, vous et moi. Si le Seigneur veut nous remplir de son amour abondant, eh bien, de son amour infini, c'est la même attitude que nous devons avoir. La confiance en Dieu qui peut nous changer, qui peut nous transformer, c'est la docilité envers l'Esprit du Seigneur qui peut nous accueillir, qui peut nous changer. Et c'est la grâce qu'on va demander dans la messe d'aujourd'hui. Regardez comment le Seigneur part de l'eau, il va au vin. Mais notre vie quotidienne, elle est truffée de moments de peur, de moments de monotonie, de moments de fatigue, de moments de stress, de moments d'angoisse. Eh bien, le Seigneur peut transformer cette eau d'angoisse, cette eau de stress, cette eau de la monotonie, il peut le transformer dans le vin de l'assurance de son amour, dans le vin de la guérison spirituelle et physique. Il peut le transformer dans le vin de son amour infini, dans le vin de sa miséricorde infinie. Voilà pourquoi nous allons vers lui, pour lui demander ce changement-là. On raconte que Aristote, un philosophe grec, disait que les gens qui se sentent mais pas aimés, qui n'ont pas fait vraiment l'expérience de l'amour, eh bien ces gens-là cherchent à être admirés. Ils font tout pour attirer l'attention, pour qu'ils soient admirés. Parce que, en fait, il leur manque de l'affection, il leur manque l'amour sincère, l'amour profond. Voyez-vous. Alors, moi, je me dis, mais en fait, si nous faisons attention, si nous regardons en profondeur, peut-être que chacun, chacune de nous a vécu de ces petites choses-là. Peut-être que, quelque part en nous, nous manquons cette affection en plénitude. Peut-être que, quelque part en nous, nous avons été blessés dans notre affection. Peut-être que, quelque part en nous, on a été brisés dans l'amour, dans nos relations. Et même quand, comme être humain, nous pouvons toujours faire le progrès dans l'amour. Qui peut se mettre debout et dire que moi j'ai aimé ma femme à 100%, moi j'ai aimé mon mari à 100%. Nous grandissons toujours dans l'amour. Qui peut se mettre debout et dire que moi j'aime mes petits-enfants à 100%. Moi j'ai toujours fait des choses correctement avec mes enfants à 100%. Nous sommes des êtres humains, dans notre amour il y a toujours un peu d'eau. Et c'est cette eau-là que le Seigneur peut transformer en son amour divin, en son amour éternel, pour nous améliorer continuellement dans notre manière de vivre, dans notre manière de nous aimer, dans notre manière de nous accueillir. C'est cette eau-là que nous allons présenter au Seigneur, qui puisse le changer, qui puisse la changer, la transformer et faire de nous que notre amour devienne consistant, qu'il reflète davantage son amour à lui, l'amour divin. Il y a Jean Vanier qui raconte que, je pense que vous le connaissez, Jean Vanier, il a créé un peu à travers le monde entier ce qu'on appelle l'Arche. Ce sont des endroits en fait où il accueille des personnes qui ont une forte déficience intellectuelle, psychologique, morale, des fois il les accueille et puis ils vivent en famille. Alors il a créé des cellules un peu partout. Maintenant il raconte qu'il a créé une cellule à Kerala en Inde. Et c'était dans les années 80. Il raconte l'histoire d'un monsieur qui s'appelait Ramesh. Il dit que Ramesh, comme c'était de coutume, une fois, parce qu'ils ont des sorties, hein, les personnes qui vivent à l'Arche, ils ont des sorties. Alors Ramesh, qui était sérieusement handicapé, alors il est parti en l'an 2005, à un moment donné, rendre visite à sa famille. Et comme il le faisait souvent, elle a été très bien accueillie, ils ont mangé, ils ont parlé. Alors, au moment de partir, Ramesh dit à ses tantes, à ses oncles, que ce jour-là, c'était son jour qui ferait ses noces. C'était le jour de son mariage. Les gens ont un peu ri, ok. Il est parti. Il a rencontré des amis aussi en cours de route. Il leur a donné la même version. Il leur a dit, écoutez, moi aujourd'hui, je m'en vais, mais c'est le jour de mes noces. arrivé à la cellule où il vivait, à l'arche, et puis il a été bien accueilli. Le responsable de la maison l'accueille, et puis avant de se retirer, il dit, écoutez, moi aujourd'hui, c'est le jour de mes noces. Je dis, ok, ça va. En tout cas, il est parti. Et puis, cette nuit-là, malheureusement, il a eu une attaque de cœur. Il est décédé. C'est une histoire qui termine un peu triste, mais Jean Vanier dit, écoute, ces paroles-là de Ramesh me font réfléchir. Est-ce que ce n'est pas le message pour nous dire qu'en fait, la mort chrétienne nous amène à des épousailles entre notre âme et Dieu? Est-ce que mourir ne veut pas dire aller épouser Dieu? Est-ce que mourir ne veut pas dire vivre dans ses sens figurés, vivre dans le mariage entre mon âme et Dieu? Est-ce que la vie chrétienne ne consiste pas en cette vie de communion éternelle avec Dieu? Est-ce que la vie chrétienne n'est pas le sens où nous vivrons continuellement en communion avec Dieu? Mes amis, dans la messe d'aujourd'hui, c'est la grâce qu'on va demander. Que le Seigneur vienne nous réveiller, que, comme nous disait Sainte Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix, dans leur spiritualité, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, toute âme chrétienne doit se marier à Dieu. Sans figurer, on prend le mariage et puis on essaie de comprendre. Toute âme doit vivre la vie de communion, la vie d'amour, la vie d'entente avec Dieu. Donc notre âme doit se marier à Dieu. Alors ce qu'on va demander aujourd'hui au Seigneur, c'est de nous donner ce goût-là de vivre avec lui pour l'éternité et de nous réveiller au bout d'écoute. Notre vie ne se termine pas ici. Quand nous allons au-delà de la tombe, nous continuons à vivre notre vie d'amour avec le Seigneur. Nous allons continuer à vivre nos épousailles avec Dieu. L'Eucharistie que nous célébrons aujourd'hui et que nous célébrons tous les jours a ce sens-là. L'Eucharistie, c'est l'union. Je peux dire que c'est un mariage. Mariage de notre cœur avec Dieu. Quand on va prendre la communion, on va communier, on va s'unir à Dieu, on va entrer en unité avec lui pour justement pour porter son amour aux gens qui nous entourent. Alors que la messe d'aujourd'hui, l'Eucharistie de ce matin, vient nous donner la joie de vivre la fête. Quelle fête? La fête de savoir que Dieu est avec nous, Dieu est au milieu de nous, et que cette fête-là, on la répande au milieu de nous. Amen.